Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21e siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Corps, amour et sexualité. C'est le titre du livre dont je reçois l'autrice aujourd'hui, Charline Vermont. Vous la connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, où elle tient le compte Orgasme et moi, qui permet une certaine vulgarisation, un certain accès, et surtout de décomplexer sur tous les sujets qui ont un trait à la sexualité et à l'intimité. Aussi comme le consentement. Il y a vraiment un aspect très engagé dans ces contenus que j'apprécie énormément. Alors, mais qui est Charline Vermont ? Eh bien, elle est mère de famille nombreuse. Elle est aussi formatrice en santé sexuelle et praticienne en sexothérapie. À travers son compte Instagram et ses conférences auprès des étudiants et étudiantes, elle permet à toutes et tous de bénéficier d'une éducation positive à la sexualité. C'est un sujet très très important, vous le savez, on l'a déjà traité un petit peu dans ce podcast dans l'épisode 69. Et son livre « Corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser » a été un grand succès sur l'année 2022. Il a été réédité d'ailleurs dans une édition augmentée avec des questions en plus. Ce livre a aussi la particularité d'avoir été relu et validé par un comité médical éducatif dans lequel peuvent apparaître des pédopsychiatres, des médecins généralistes, des psychologues, des professeurs des écoles, des gynécologues ou encore des thérapeutes spécialistes du genre. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que déjà, il traite de différents âges, d'accord ? Ça va de 5 à 14 ans au niveau de l'accompagnement. Alors très concrètement, moi, ma fille a 4 ans et il y a des choses très très utiles déjà dedans. Et surtout, en fait, il y a vraiment un côté très transmission aussi auprès des parents parce que nous, on n'est pas forcément à l'aise avec ces sujets-là. Nous allons en parler avec Charline dans l'épisode puisque je lui posais plein de questions sur ce livre et sur comment ça a été fait, comment est-ce que ça a été pensé et surtout quels outils ça peut nous amener sur ces sujets très très important que sont l'éducation positive à la sexualité, la relation intime qu'on peut avoir au corps. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. C'est un guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles. Moi, je trouve que le contrat est rempli. Voilà, parce qu'au-delà donc des informations pures qu'on peut trouver, il y a vraiment des sujets de posture pour nous parents qui ne sommes pas forcément à l'aise avec tout ça. C'est rangé par âge, c'est très très bien guidé. Vraiment, je vous invite à l'acheter et à le consulter si vous souhaitez avoir une source pertinente pour partager avec votre enfant ou ne serait-ce que pour pouvoir répondre à leurs questions qui peuvent être parfois assez surprenantes. Alors, on va commencer l'entretien avec Charline par une question qui est, ma foi, somme toute, assez bateau, mais que je me dois te poser. C'est comment est venue l'idée de ce livre ? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bah, tout d'abord, peut-être je vais un peu dévoiler une partie de ma vie. Je suis moi-même mère de famille nombreuse. Alors les gens me disent, mais nombreux, c'est combien ? En France, 3, c'est nombreux. Hein.
Oui, c'est vrai, t'as la carte pour les
c'est
transports.
C'est ça, tu y accèdes. Donc j'ai 3 enfants et l'idée de ce livre, c'est clairement le confinement où je me suis retrouvée à avoir les enfants continuer à la maison tout en exerçant mon activité à la fois sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis formatrice en santé sexuelle, donc j'interviens à la fois auprès de professionnels de santé que je forme. Donc je suis enseignante à la Sorbonne en DU de santé sexuelle. J'interviens également pour des organismes de formation professionnelle continue des médecins. Et aussi, j'interviens dans les établissements scolaires, collèges, lycées, grandes écoles, universités, pour parler de consentement et de sexualité aux élèves. Voilà. Donc ça, c'est les différentes facettes de ma vie. Et puis, j'ai une activité grand public que plein de personnes connaissent, qui est le compte Instagram Orgasme et moi, où je fais de l'éducation populaire au sens noble du terme, je pense. C'est-à-dire, c'est un endroit où, de manière gratuite et accessible, je peux partager du contenu informatif et ludique autour de la sexualité. Voilà. Et du coup, premier confinement, je suis en train de mener ma vie professionnelle normale avec les enfants autour de moi. Et les enfants, ils ont des oreilles qui traînent. Et puis aussi, il y a quand même, par rapport à un monde d'avant où tu es en télétravail, en réunion avec ton truc sur les oreilles, là, il y a quand même des choses qui se passent, il y a des tournages et tout. Et les enfants, ils sont là, mais maman, en fait... mais c'est quoi ton métier?
Pourquoi tu te déguises en vagin?
C'est ça. Je n'ai pas écouté les enfants. Voilà, mon métier, c'est formatrice en santé sexuelle. Maman, mais sexuelle, est-ce que c'est la même chose que sexe? Ça veut dire quoi, sexe? C'est là, ok. Alors, on va sortir le manuel du parent parfait. Ah, ça n'existe donc pas, cette question. Et là, je me suis retrouvée à effectivement accueillir, c'était à l'époque notre dernier enfant, 5 ans, qui posait la question. Et je suis là en mode, ok, alors, yes, force à moi. Et tout d'un coup, voilà, j'ai appliqué ce que je, effectivement, la boîte à outils que je recommande en début de livre. Et donc, je dis, ah, mais c'est une très, très bonne question. Franchement, merci de me l'avoir posée. Donc, on accueille positivement les questions, on valorise. Comme ça, l'enfant, on se dit, ah, j'ai le droit de poser des questions. Ok, c'est la bonne personne. J'ai identifié l'adulte de confiance à qui je peux les poser. Chouette. Et je lui retourne la question. Je fais, et toi, tu penses que ça veut dire quoi, sexe? Et c'est là où, c'est ce que j'invite les parents à faire, en fait, se rendre compte que nos enfants, eh bien, ils ont déjà des représentations de pas mal de choses qui, évidemment, évoluent en fonction de leur maturité psycho-émotionnelle. Et donc, mon enfant dit, bah, je sais pas, le sexe, c'est un peu sale. J'ai dit, ok, cool. Et on se met à parler. Je dis, en fait, bah, sexe, ça a plusieurs significations. Et la première signification, c'est que c'est une partie du corps humain. Donc voilà, donc je vais chercher mes trucs, mes planches anatomiques, etc. Il y a les grandes qui arrivent, qui se joignent à la conversation. Et écoute, ça a duré, je sais pas moi, une heure et demie. Un moment magique avec mes enfants qui posaient plein de questions, qui étaient mais super captivés par tout ce que je racontais. Et moi qui me disais, non mais c'est si simple. Enfin, genre, est-ce que c'est possible que ce soit finalement un sujet si accessible et si peu tabou, enfin, quelque part qu'on l'aborde de manière saine, je pense, et intelligente. Et là, moi, une fois qu'on a fini ce moment-là, sur le canapé avec mes trois gosses, je me suis dit, ok, alors, comment prolonger ces moments-là? Comment les renouveler? Comment les recréer? Et je suis partie en quête d'un livre qui puisse matérialiser en fait l'espace safe qu'on avait créé ensemble. Et du coup, je suis tombée soit sur des bouquins de parenting, genre « Osez parler de sexualité avec vos enfants, comment en parler avant qu'Internet le fasse, nanana ». Donc vraiment des bouquins pour moi, parents, ou alors des bouquins pour les enfants. Et j'avais le zizi sexuel à la maison. Je me suis dit « Bah voilà, nickel, sauf que c'est un livre que tu prends, que tu me donnes à ton gosse. » Et en mode « Démerde-toi
ouais, !»
Le livre transitionnel, et c'était pas du tout ce que je cherchais. Moi, je voulais un livre qui soit transgénérationnel, qui soit aussi finalement simple à aborder que l'histoire du soir, que les hérissons, tu sais, ou n'importe quel sujet de dinosaures, de quoi que ce soit que j'adore aborder, voilà, notre moment cocon du soir ou du week-end. Et ce bouquin n'existait pas. Alors je l'ai écrit.
Voilà.
Et voilà, c'est comme ça que sont nés les... Alors à l'époque, c'était 100 questions, donc paru en septembre 2021. Là, un an plus tard, donc septembre 2022, paraissent les 120 questions. Donc une version qui est augmentée, qui est enrichie. Alors petit retour en arrière pour les 100 questions. À partir du moment où je me suis dit « Ah, il faut absolument que j'écrive ce livre », j'en ai parlé à ma commu. Et du coup, j'ai demandé à ma commu « Hello, hello, les parents de la commu, est-ce que vos enfants vous posent parfois des questions? Est-ce que vous pourriez m'écrire en fait les questions que vous recevez de vos enfants en précisant l'âge ?» Et on est parti, donc là, il y avait des centaines et des centaines de stickers qui sont arrivés. Et c'est pas tout, parce qu'il y a plein de personnes de ma commu, qui est assez jeune, qui m'ont dit « Hey Charline, nous, on n'est pas parents, en revanche. » On avait plein de questions qu'on n'osait pas poser à nos parents quand on était jeunes. Et du coup, j'ai fait un deuxième onglet questions. Et là, en fait, en tout, on a reçu 3-4 000 stickers. Donc, t'imagines le truc, t'imagines à devoir taper à la mano, évidemment, le tableau Excel avec 4 000 lignes. Enfin, moins que ça, parce qu'il y avait quand même des récurrences. Et on est parti de cette espèce d'énorme tableau, avec en plus les âges, etc. Et donc, l'idée, c'était de redescendre à 100 questions. Donc, ça a été un gros travail, mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce truc un peu collaboratif avec la commune. Ouais. Et voilà, en fait, on est parti sur vraiment les questions qui étaient les plus fréquentes. On a dessiné un chemin de fer qui est le plan du livre. Aussi le passage, alors juste sans question, à la base c'était pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc juste pour les personnes qui ne connaissent pas le livre, effectivement il y a une boîte à outils qui est au début du livre et qui est très importante, un peu comme un mode d'emploi à la fois du livre mais de toutes, finalement de tous les sujets autour de l'intimité du corps, de l'amour que vos enfants pourraient se poser. Ensuite, pour chaque chapitre, il y en a 8, il y a une intro qui est pour les parents parce que c'est un peu aussi une self-care. Avant de prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Et franchement, moi, j'étais à la place de tous les parents. Et moi aussi, je me suis dit, mais flûte. Comment on va aborder le sujet ?
Justement, tu vois, c'était un petit peu la question suivante que je voulais te poser, parce que il y a cette boîte à outils, je la trouve très bien, parce que en plus, très sincèrement, tu vois, moi qui ai une formation en management, en accompagnement, ça met vraiment dans une posture d'accompagnant, il n'y a pas de jugement. Cela dit, tu vois, sur les parents, vraiment, tu vois, le premier point qui est écrit, c'est d'accueillir la question, d'accepter la question.
Ouais.
Et moi, vraiment, ma question, c'est, même si au début de chaque partie, il y a vraiment un conseil pour les parents, mais si vraiment, tu vois, je bloque, si vraiment, moi, tu vois, bah, par exemple, je sais pas, mon enfant de... Alors, je précise, j'en profite pour préciser que c'est séparé par âge aussi avec un code couleur.
Exactement.
Et que je trouve génial.
Ouais, c'est-à-dire, là, il y a la partie des parents pour chaque chapitre. Et puis après, on attaque vraiment les questions des enfants, sachant que c'est un livre évolutif et qu'on s'adapte à la maturité psycho-émotionnelle des enfants. On ne répond pas de la même manière à un enfant de 5 ans, de 10 ans, de 14 ans. Et du coup, il y a des codes couleurs, c'est évolutif et tout ça. Oui.
Et donc, le parent qui, imaginons, je ne sais pas, ma petite fille, elle vient parler de masturbation avec sa mère ou avec moi, et je ne suis pas du tout à l'aise. C'est-à-dire que même en ayant le livre, même en ayant les mots, si tu veux, j'ai un blocage. Comment je peux faire ?
Alors moi, ce que je conseille aux parents, enfin ça c'est vraiment aussi dans le livre d'ailleurs, c'est d'être un peu bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire, c'est OK de ne pas être prêt.
Mm-hmm.
Prête. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas... Rome, ce n'est pas fait en un jour. Et on ne va pas, nous, devenir la première génération à s'emparer de ce sujet-là, de transmettre. En fait, c'est la première fois, première génération, je pense, où on n'est pas sur une espèce d'omerta familiale. Parce que dans les familles, on se transmet beaucoup de choses. On se transmet des histoires familiales, on transmet des gènes parfois merdiques. Non, je ne vais pas rebondir sur le sujet. Mais des recettes de cuisine, un patrimoine ou un matrimoine. Des anecdotes, tout ça. Il y a un sujet, des photos, tout ce qu'on veut. Il y a un truc de génération en génération qu'on ne transmet jamais. C'est en fait tout ce qui touche au corps. Voilà, c'est quelque chose de totalement tabou. Il n'y a pas d'éducation sur le sujet. Et on ne transmet pas. On fait l'impasse dessus en mode, les enfants...
Du coup, on transmet le tabou, en fait.
Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on transmet, effectivement, cette espèce de sensation que l'enfant intègre assez jeune. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, parce qu'après, on va parler des âges auxquels on peut en parler aux enfants. Plus on en parle jeune, en fait, moins l'enfant intègre socialement qu'il existe un tabou, un truc où il faut vraiment... Voilà, il faut faire le tour du truc, parce qu'il ne faut pas... Non, ça, on ne touche pas. Le tabou se transmet. Mais là, voilà, nous, on est quand même la première génération à s'éduquer massivement sur le sujet. Quand on regarde nos comptes Instagram, etc., en fait, les gens veulent s'éduquer, s'informer, comprendre comment on fonctionne. Et il ne s'agit pas que de sexualité. Il s'agit d'apprendre à construire des relations affectives saines, à communiquer... etc., etc., et à essayer de comprendre, être dans l'empathie. On est en fait finalement en train de faire société, rien de plus. Mais, et en fait, bah, ça fait partie de ce qu'est faire société, de se comprendre jusqu'à la sphère intime, mais pas seulement. Et en fait, aujourd'hui, on s'éduque, et du coup, on se donne les moyens finalement de transmettre quelque chose à nos enfants qui n'est pas le grand vide, le grand tabou. Eh bien, c'est compliqué quand on n'a jamais eu de modèle sous les yeux. C'est hyper compliqué pour tout le monde. De même qu'on a été peut-être aussi la première génération à arrêter de frapper nos enfants. Enfin, tu vois. Enfin, finalement, et ça prend plusieurs générations pour qu'on se dise attends, de même que je vais pas aller voir ma voisine, mon voisin pour lui foutre une baffe. Enfin, à quel moment je fais ça à mon enfant ? Enfin, tu vois. Il y a quand même une espèce d'évolution sociétale qui fait que les gens ils disent « Ah, mais si on... c'est peut-être pas un hasard, si on n'en a jamais parlé, peut-être que c'était bien. » Je fais « Ah oui, donc c'est évidemment pas un hasard si on frappe nos enfants depuis toujours, c'est sans doute bien. » C'est-à-dire, en fait, votre discours, il ne tient pas la route deux secondes, en fait. Non, on est en train d'évoluer parce qu'on est en train de considérer, finalement, que les enfants sont des êtres humains à part entière et on va arrêter de les prendre pour des cons ou pour des moins que rien, en fait. On va juste les respecter et leur donner des outils pour pouvoir choisir en conscience. Voilà.
Ça t'anime, hein, cette question-là. Là, je t'ai inventé et je te rejoins et je te remercie de faire un parallèle parce qu'en effet, je te rejoins totalement. Et en même temps, si tu veux, pour revenir sur la posture des parents, c'est pour ça que je trouve ton parallèle très pertinent. C'est parce que sur le sujet de la sexualité comme sur le sujet des violences, qui sont quand même aussi liés, je pense, mais il y a aussi cet endroit de chacun part de sa propre histoire.
Ouais.
Et que, autant sur la sexualité comme pour les violences, Peut-être aussi que tu vois qu'il y a des parents aujourd'hui qui considèrent que frapper les enfants c'est pas possible, que les insulter c'est pas possible, mais que par exemple les enfermer dans la chambre c'est tout à fait ok.
Faut pas jeter
la pierre.
Non, on évolue
chacun son rythme.
Exactement. Chacun évolue à son rythme. On est vraiment la première génération déjà à se poser la question, à se remettre en question, etc. Donc en fait, je dis aux parents, franchement, vous avez le droit d'acheter le livre, déjà de le prendre pour vous, de le lire et d'avoir besoin d'un temps de digestion. Qui est indéfini. Et le jour où vous vous sentez prêt, prête, à ce moment-là, vous avez le droit d'y aller. Et c'est pas... on a le droit, la première bienveillance, c'est avec soi-même. Et si vous avez besoin de temps, vous avez besoin de temps. Et c'est tout.
Il y a une première question qui ouvre ce livre. Alors, je vous le dis tout de suite, pour l'auditoire, on va parler du contenu, mais on va pas refaire tout le livre. Moi, je vous invite à acheter le livre et à le consulter. Et je vais vous dire ce que moi, je pense faire, c'est que personnellement, ce livre va m'accompagner pendant plusieurs années. Donc, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Et cette première question, c'est comment on appelle ce qu'il y a entre mes jambes?
Ouais.
Alors, je ne vais pas te demander de répondre directement à la question puisque c'est dans le livre, mais je vais te demander plutôt pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser les bons mots pour nos enfants.
Alors, j'ai envie de dire un petit disclaimer aussi avant d'avancer sur le sujet, c'est que si vous ne vous sentez pas d'utiliser, entre guillemets, les mots anatomiques, on a le droit. Genre, je ne suis vraiment pas là pour rajouter une injonction à toutes les injonctions qui pèsent déjà sur les parents et en particulier sur les mères. Donc ça, c'est la première chose. Mais effectivement, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi, quand on a envie de parler à nos enfants de leur nez, de leurs oreilles, on va dire incroyable, on va dire nez et oreilles. Par contre, quand on va parler de ce qu'ils ont, elles ont entre leurs jambes, alors on va inventer des noms très intéressants. Out of the blue, on va appeler ça Zazette, Petit Oiseau, Kiki.
Pour les seins aussi.
Pardon ?
Pour les seins aussi, c'est les nénés,
les
titis.
Et je me suis dit, mais attends, avant d'être des objets de fantasmes et de désirs, on est quand même en train de parler de parties du corps humain. Donc il y a un vocabulaire anatomique, médical, scientifique qui existe. Pourquoi, nous, adultes, spécifiquement pour cet endroit du corps, on est incapable d'utiliser des mots qui existent parfaitement et qui ne sont pas des gros mots, ni des insultes, ni... Enfin, qui comportent rien, finalement. Pénis, vulve, lèvres, clitoris sont des parties du corps humain, ce sont des morceaux de notre corps, avant d'être quoi que ce soit qui, dans notre cerveau d'adulte, pourrait faire des liens avec une forme de sexualité. Mais ce qui est intéressant, notre cerveau d'adulte, et ça c'est un peu la grande question, je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'on, du coup on a des petits noms, et je me suis dit je crois que c'est tellement compliqué pour nous adultes de faire le lien finalement, ou d'accoler les mots enfant et sexualité, c'est tellement impensable parce que derrière évidemment il y a ce monstre dans le placard qui s'appelle la pédocriminalité. Ou en tout cas quelque chose qui est ou notre incapacité à imaginer de toute manière que nos enfants puissent avoir une forme de sexualité, tout comme nos difficultés d'ailleurs à appréhender le fait que nos propres parents puissent avoir une sexualité. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la génération d'avant d'après des pères autour de la sexualité qui est telle, et puis la pédocriminalité qui quand même est un sujet en soi. On a simplifié le truc, on a un peu court-circuité, on dit du coup, on va inventer un nom, et quand on va dire Kiki Zezette, ça veut dire que c'est une partie du corps humain et je lui enlève toute connotation sexuelle. Je dis ce qui est intéressant, c'est vous, parents, vous n'avez pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est capable, intellectuellement, d'appréhender les choses et vous n'avez pas besoin de noms d'oiseaux très bizarres pour ne pas sexualiser ces parties-là du corps de vos enfants, tout va bien. Et du coup, petite anecdote, on va grimper pendant les vacances de la Toussaint en famille, en plein air, et on tombe sur une falaise, sur une voie d'escalade qui s'appelle Zizi Rider. Et là, notre dernier enfant, 8 ans, se tourne vers nous, les parents, et font « Ils ont écrit Zizi Rider, alors qu'évidemment que c'est Penis Rider !» c'est très drôle. Mais les enfants, on n'a strictement rien à cogner. C'est nous, parents. Quelque part, c'est à nous, parents, qu'on protège ou qu'on se protège, en tout cas, en inventant ces noms-là, pour les désexualiser, mais nos enfants n'en ont rien à cogner. Pénis, vulve, pour eux, ce sont des mots tout à fait OK. Et c'est des mots qui, elles, pourront réutiliser, continuer à utiliser tout au long de leur vie. voilà, c'est ça les vrais mots.
Et ouais, carrément. Et alors, bien entendu, sans poser d'injonction aucune, je pense qu'il y a aussi peut-être un truc quand même, bah, je vais utiliser le mot, à déconstruire sur le sujet.
Ouais.
C'est comme tu l'as très justement dit, c'est un mot qui, qui perd le sens sexuel de la zone. Et en fait, si tu veux, moi, tu vois, par exemple, qui est une petite fille, je me suis aperçu aussi que, alors, tu as évoqué le sujet de la pédocriminalité, je te remercie de l'avoir fait, et je pense que c'est important que les enfants comprennent, parce que si un enfant est... J'ai d'autres sujets sur l'inceste qui arriveront, mais quand un enfant vient nous voir en nous disant « Tonton m'a touché la vulve » ou « Tonton m'a touché la zézette », en fait, c'est pas forcément la même zone, c'est pas forcément la même chose. Et moi, je le vois avec ma fille au niveau de la santé. Par exemple, ma fille, comme elle connaît les zones, la différence entre le pubis, la vulve, l'anus et tout ça, mais en fait, quand ça la gratte ou si elle a eu mal, ça permet de vraiment savoir de quoi il s'agit. Mm-hmm. C'est tout bête. Hein.
Non, mais
en fait, ça permet de savoir. Et derrière, quoi, si jamais il y a besoin d'échanger avec un pro de santé, bah, d'avoir les bons mots. Quoi. Et justement, en plus d'éviter une exploration par un pro de santé qui serait plus hasardeuse et potentiellement moins agréable.
Ouais. Non, mais clairement. Et puis aussi, c'est aussi en nommant tous ces organes qui sont, entre guillemets, et ça, j'ai pas problème du tout à le dire, ce sont des parties qui sont des parties intimes, mmh. Et ben c'est en nommant l'intimité et ben qu'on peut aussi la protéger. Et ça, c'est voilà, et ça c'est ce qu'on aborde dès le premier chapitre, le corps, deuxième chapitre, l'intimité, avec cette
c'est une très belle phrase, je pense que celle-là je vais la quote
voilà.
Non, elle est très très bien,
qu'on va pouvoir avec cette image du château fort, où effectivement c'est l'apprentissage pour nos enfants que leur corps, c'est une forteresse, vraiment. Enfin, voilà, je vous laisse explorer la métaphore du château fort, hein, qui a été validée
elle est très
par beaucoup d'enfants. Parce que c'est... Et voilà, en tant que parent, ça permet vraiment d'avoir un truc pour dire, voilà, tu vois, avant d'entrer dans un château fort, on demande l'autorisation pour qu'on baisse le pont-levis, on dresse la herse, etc. Ton corps, c'est ton intégrité physique. C'est ta forteresse, tu es le roi, reine de ce château fort. Et ben, nul ne peut y avoir accès d'abord sans te demander ton consentement, etc., etc.
Je te ferai une anecdote après sur le consentement, je pense.
Yes.
Mais je profite du fait que tu parles d'illustration du château fort, qui est vraiment très très parlante dans le livre, aussi pour préciser que ce livre est illustré, brillamment illustré par Tommy Buzzi.
Juliette Mercier, alias
voilà.
Tommy Buzzi.
Exactement.
S'il vous plaît, allez la suivre, elle fait un travail exceptionnel. Franchement, et du coup, je vais m'adresser directement à Juliette. Merci, parce que il fallait, pour ce livre, qui peut être difficile à appréhender par certains parents. Les enfants, globalement, c'est beaucoup plus simple que leurs parents. Eh bien, il fallait aussi des dessins, des illus qui dédramatisent, qui soient là pour vraiment apporter cette légèreté et cette douceur.
Ils sont très cyprètes, je trouve. Ils sont très cyprètes, vraiment.
Moi, je vois les dessins de Stomy et en fait, j'ai la banane d'une oreille à l'autre.
C'est ça.
Elle a fait un taf pour dédramatiser. Et avec cette espèce de touche intelligente, humoristique, et je le précise, inclusive. C'est-à-dire, pour moi, c'était important que ce livre ne ressemble pas à nos livres qu'on a eus quand on était, nous, gamins, où il n'y avait que des petites filles blondinettes aux yeux bleus, où il n'y avait strictement personne, aucune diversité ni ethnique, ni d'identité de genre, d'orientation sexuelle, donc là, ni de situation de handicap. Là, on a, sans que j'ai besoin de le préciser, Juliette a livré vraiment des illus les plus inclusives. J'avais juste rien eu à dire, c'était parfait. Merci Juliette. Voilà.
Je te rejoins. Je voudrais revenir sur la question 46. Je ne te mets pas au défi.
Je n'ai pas le livre
par cœur,
attention.
Mais je l'ai noté. Pourquoi je ne peux pas me toucher devant toi ou tout le monde ? Eh bien, figure-toi que moi, j'ai été confronté à ça assez tôt avec ma fille.
Mais en fait, tout le monde.
voilà.
Anecdote, mais est-ce que tu connais le pourcentage d'enfants prépubères qui se masturbent ?
Non.
Ensuite, je te dis ça maintenant que je dis ça, je veux dire comment je vais répondre. En fait, les fourchettes, selon les études, sont larges parce que, pour une simple raison, c'est que c'est quand même assez compliqué d'aller checker. du coup, on a des évaluations, on observe, etc., les enfants. Selon les études, donc on est sur de l'ordre de 40 à 85% d'enfants prépubères qui se masturbent selon les dizaines d'études menées. Et du coup, d'ailleurs, petite parenthèse, je pense que c'est excessivement compliqué pour les parents, on l'a déjà dit, d'appréhender que leurs enfants aient une sexualité. Tu vois, il y a aussi des gens qui me disent « Mais si on leur raconte, on va leur donner envie de faire. » Alors, Chers parents, vos enfants n'ont pas attendu que vous leur en parliez, parce que dans la fourchette 40 à 85%, j'entends surtout majorité de... Donc en fait, il y a une majorité en fait, d'enfants prépubères, donc c'est avant leur puberté, qui se touchent. Et d'ailleurs, je veux vraiment essayer d'alléger le propos au maximum. Tous les mammifères se masturbent, se branlent. C'est quelque chose qui fait partie en fait complètement... finalement de notre, de ce qui nous rapproche en tant que famille de classe d'espèce. Et on a des vidéos, on a des échographies d'enfants in utero, s'il te plaît, qui se masturbent et qui clairement se touchent le pénis ou la vulve, le clitoris, dans le ventre déjà de leurs parents. Donc clairement, tout va bien. C'est quelque chose que font tous les mammifères. Et quand on parle de masturbation infantile, donc on parle avant la puberté, cette exploration, elle fait vraiment partie du développement normal, naturel de votre enfant. C'est une manière pour lui d'appréhender son corps. Voilà, de même que voilà, l'enfant se touche. Il n'y a rien d'anormal à ça. Toutes les personnes qui travaillent en puériculture vous diront que vous mettez un enfant dans quelques centimètres d'eau. Si l'enfant a un pénis, il est très très probable que dans les quelques minutes, l'enfant se touche et tout va bien. Et au cas où, effectivement, donc c'est la question 46 et je vais répondre à ta question. Si vous surprenez votre enfant en train de chevaucher par exemple l'accoudoir du canapé sur un coussin ou sur une couverture ou n'importe quoi en fait, ça s'appelle le humping, c'est le frotti-frotta, c'est le frottement de ses parties génitales sur n'importe quelle surface parce que ça donne du plaisir, la seule réaction à avoir, c'est d'abord rassurer votre enfant en disant « Hey, coucou, tout va bien, c'est très, très bien ce que tu fais, tout va bien, tout est normal. Est-ce que je peux t'inviter à le faire dans un endroit au calme, par exemple dans ta chambre ou dans la salle de bain, pour pouvoir à la fois préserver ton intimité et celle des autres ?» Voilà, c'est rien de plus. Et voilà, vous envoyez des messages très clairs à votre enfant. On va parler de « c'est ok de le faire, tout va bien, on rassure votre enfant dans son exploration ». On va parler de sa propre intimité et on va parler de celle des autres, donc de consentement. Et ça, c'est je pense qu'il y a tout ce qui est un peu...
Exactement. Et tu vois, moi, justement, l'anecdote que j'ai là-dessus, que j'ai déjà racontée, mais que j'aime bien rappeler avec ma fille. Donc, elle avait un petit peu plus de deux ans et demi, quelque chose comme ça. Et on avait déjà nommé les parties génitales, tout ça. Et en fait, je lui donne le bain. Et vient le moment du rinçage avec la pomme de douche.
Ah ouais.
Et du coup, elle était à un âge où elle a commencé à me dire, mais moi, je vais me rincer toute seule et tout. Et du coup, je vois qu'elle dirige le jet entre ses cuisses et que ça a l'air de lui plaire. Donc d'abord, je lui demande, est-ce que ça te gratte ou est-ce que ça te fait plaisir ? Parce que peut-être que c'était quelque chose qui l'a démangé, tu vois.
Et ça apaise.
Voilà.
Ouais,
okay. Et elle me dit, ça me fait plaisir. Du coup, en fait, moi, parti pris, j'ai dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la salle de bain.
Nickel.
Je vais aller juste derrière la porte. Je suis juste là, tu m'appelles quand t'as fini. Moi, je suis plutôt content de ma réaction, je m'en cache pas. Même si je te cache pas, sur les réseaux sociaux, la première fois que je l'ai raconté, elle a généré un tollé en mode t'es un gros pervers, il faut l'empêcher de faire. Ouais. Il faut l'empêcher de faire. Et justement, j'en viens à mon.
C'est intéressant parce que quand il s'agit du corps des femmes, même quand elles ont deux ans, on a envie de le contrôler.
J'en viens à mon autre anecdote qui concerne pas ma fille, mais deux autres enfants d'amis et de la famille, où t'as un petit gars, t'as deux enfants de 3 ans, un petit garçon qui se tripote le zizi, tu vois, c'est l'été, tout le monde est tout nu. Et oui, dis donc. C'est important que les gens voient que même alors que je m'évertue à dire pénis, tu vois, là, j'ai dit...
Non, mais je te corrige avec bienveillance et il n'y a aucune obligation. Hein. Non, mais vraiment.
Mais je pense que c'est bien, on peut se corriger, tu vois, sans que ce soit malveillant. Et donc, il se touche le pénis et il joue avec. Et à côté, il y a une petite fille qui se touchait. Alors, je ne sais pas si elle se touchait le pubis ou la vulve, je t'avoue, je n'ai pas bien observé. Mais en tout cas, ce qu'il y a de marrant, ou pas... d'ailleurs, c'est que le petit garçon, ça a choqué personne parce que c'est normal, c'est un garçon, il faut qu'il joue avec. Ils ont le même âge, hein, j'entends bien, 3 ans. Et la petite fille, fallait pas, c'était sale. Fallait pas toucher.
Là, 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 là.
Tu vois ?
Ouais, en fait, j'ai envie de dire, moi j'ai effectivement connu notre dernier enfant qui, à quelques jours, a découvert son appendice, n'est-ce pas ? Et tu te dis... Alors moi, la première réaction que j'ai eue, c'était surtout quelle injustice. Quelle injustice, il y a quand même un appendice qui est quand même à 90% externe, tandis que quand tu nais avec vulve clito, On est sur du... Enfin, on va, en tout cas, pour garder clitoris, pénis, voilà, comme comparaison, c'est 10%, même pas dehors. Bref, donc il y a une injustice anatomique. Par contre, hein, ce qui est très clair, c'est qu'il devrait y avoir une égalité dans l'accès à cette zone-là. Et je veux dire, ce sont strictement les mêmes organes qui se différencient très tôt au cours du troisième, quatrième mois au stade embryologique. Donc tout va bien. Si voilà, que votre enfant ait un pénis ou un clitoris et qui elle découvre à quel point c'est plaisant de le toucher, en fait votre enfant est juste en plein développement normal. Et encore une fois, c'est intéressant de voir pourquoi tout d'un coup on va trouver ça normal quand c'est un pénis et pas normal quand c'est un clitoris. Ça en dit long sur le contrôle des femmes. On ne va pas faire de parenthèse, et j'en ai pas parlé dans mon livre, hein, je précise pour les parents qui ont peur. Mais là, je vais le faire ici, en fait. C'est exactement ce genre de réaction à l'extrême qui mène à l'excision. On va contrôler ce corps-là, on va contrôler le plaisir des femmes cisgenres. Donc derrière, cette espèce de contrôle, d'over-control du corps des femmes et d'omerta, c'est-à-dire aussi... associer ça à c'est dégueulasse, enfin, finalement une femme qui se dessine dès l'enfance des choses qui peuvent devenir exacerbées plus tard et puis à l'âge adulte, qui finalement c'est assez honteux d'avoir une pratique masturbatoire quand t'es une femme, cis, c'est honteux d'assumer sa propre sexualité, on a le slut shaming, le shaming tout court qui est pas très loin. On crée en fait des conditions de complexe et de gêne. Et comme on le dit souvent, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que en lisant mon livre, c'est une des réactions qui m'ont moi émue aux larmes. C'est le nombre de personnes, et notamment que ce soit parents ou pas parents. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont acheté le livre et qui ont lu ce passage et qui ont dit en fait, tu m'as réconciliée avec mon enfant intérieur, tu as apaisé la gamine que j'étais, qui avait honte de ça, j'ai cru que j'étais perverse, j'ai cru que j'étais anormale, j'ai cru que le fait d'avoir envie de me toucher, etc., faisait de moi une mauvaise personne, etc., etc. Et c'est vrai que c'est très apaisant, en fait, de lire, quel que soit ton âge, qu'en fait, tout ça, c'était complètement normal, que c'est le regard que la société te fait, le doigt qui est pointé vers toi. Aujourd'hui, on est vraiment la première génération à pouvoir offrir, du coup, à nos enfants cet espace-là où... il n'y a plus de honte, il n'y a pas de shaming de qui que ce soit. Et il y a aussi une forme, l'égalité, elle se construit là, au jour le jour. On ne va pas construire une société avec des personnes égales en droit sans revoir tout. Et une des choses qu'on revoit, effectivement, c'est le fait de s'approprier son corps et son plaisir. Ça devrait être, évidemment, quelque chose, une égalité en droit. Et donc là, on est en train, donc là, on parle du sujet de la masturbation infantile, on est aussi en train de recréer cette égalité des stages-là. Voilà.
Merci. J'étais porté là par tes mots. Je te remercie d'avoir ouvert cette parenthèse qui me paraît importante. Tu me fais revenir sur différents points. On reviendra, je pense, sur ce sujet.
Ouais.
Et je te remercie de parler du sujet de l'enfant intérieur parce que c'est un sujet sur lequel je travaille. Et c'est vrai que quand on parle d'enfant intérieur, il y a déjà un point. Mais quand on parle de la sexualité par rapport à l'enfant intérieur, il y a encore un stade de plus. Il y a ça. Et puis il y a l'argent aussi, souvent. Le sexe et l'argent, c'est quand même de gros sujets.
C'est globalement les sujets en France, d'ailleurs. En fait, on me dit souvent le sexe, dernier tabou. Non, en France, argent, dernier tabou.
Ouais,
je pense que l'argent est encore plus tabou, en fait.
Il y a un excellent podcast, Histoire d'argent, de Fabrice Florent, okay. Là-dessus, que je te conseille d'écouter, que je recommande à tous et toutes d'écouter.
Okay.
Il vient bousculer quelques trucs, c'est très intéressant. On vient de parler justement de cette différence entre les genres.
Mm-hmm.
Et tu as une partie sur l'estime de soi,
ouais.
Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est une partie très roudoudou. Hein.
Beaucoup, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais juste donner les questions, je ne te demande pas d'y répondre encore une fois,
ouais.
Mais juste, ok, c'est peut-être pour vous donner un peu envie de lire le livre. Moi, j'ai noté les questions de la 50 à 53. Comment faire pour avoir confiance en moi? Est-ce que le vernis, le maquillage et le rose, c'est réservé aux filles? Mes copines disent que je suis un garçon manqué, je leur réponds quoi? Pourquoi dit-on que les garçons ne doivent pas pleurer? Du coup, moi, ma première question là-dessus, c'est comment est-ce que... Parce que là, on se parle de stéréotypes de genre quand même, et c'est important d'en parler très tôt, mais comment est-ce que tu définis la différence entre le sexe et le genre avec l'enfant?
Ah, mais ça, c'est abordé en fait dès la première partie.
Tout à fait. Mais moi j'ai ma réflexion là-dessus, si tu veux, c'est que je suis très embêté à chaque fois, notamment parce que ma fille me challenge beaucoup dans le choix de mes mots.
Elle a bien raison.
Et du coup, en fait, moi, si tu veux, je me suis retrouvé à vraiment scinder, si tu veux, les mots qu'on utilise, quitte à utiliser les mots mâles et femelles. Qu'on n'aime pas trop utiliser dans la langue en parlant de l'humain, mais parce que en fait le truc c'est que je me suis rendu compte que très rapidement, alors qu'on travaille beaucoup sur les stéréotypes de genre, sans scinder ça, elle se retrouvait vraiment à tomber dans lui c'est un garçon parce qu'il a les cheveux courts et qu'il est habillé en pantalon, tu vois, dans les livres.
Effectivement, il y a encore pas mal de choses.
Et donc c'est un peu compliqué. Oui. Et en fait, moi, si tu veux, de passer par ce chemin du sexe avec les mots comme ça, ça me permet de lui dire, bah, tu vois, lui, il a un pénis. Donc, bon, on a utilisé le mot mâle, mais tu vois, il peut avoir les cheveux longs, il peut porter des robes, alors, ça n'empêche rien.
Ouais, alors du coup, j'ai envie de dire, je peux répondre. Alors, c'est une question que les parents se posent vraiment aujourd'hui. Ah, tu n'es pas seul.
Ah, mais ça, je sais. En fait, mais on galère tous.
Mais globalement, c'est ça. Je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire, si vous avez l'impression d'être en train de galérer, je vous rassure, tout le monde. Moi aussi, tout va bien. Et du coup, cette question, c'était évident pour moi qu'il fallait l'aborder. Donc, on est dans l'introduction du premier chapitre. Donc, vraiment, voilà, je dis sexe et genre, c'est quoi la différence? Je vais me relire parce que c'est pour celles d'entre nous qui ont eu accès à un semblant d'éducation sexuelle. Il nous est expliqué qu'un garçon avait un pénis et qu'une fille avait une vulve. Je parle de notre génération. Et cette dichotomie méconnaît la différence entre sexes. Et là, je donne la définition. Donc, c'est l'ensemble des caractères génétiques et biologiques des individus humains et le genre, qui est un concept qui rassemble l'ensemble des comportements, rôles, activités, attributs considérés comme appropriés pour les individus dans une culture donnée selon leur sexe réel ou supposé. En fait, le sexe est biologique, le genre c'est une construction sociale. Et c'est ensuite, j'exprime, le sexe assigné à la naissance, pénis, vulve, ne définit pas le genre de votre enfant. Seul votre enfant peut vous dire le genre dans lequel il, elle, s'identifie. Voilà, et on va juste permettre à son enfant de s'autodéterminer librement, en conscience. Et voilà, donc j'ai envie de dire, c'est rien de plus que ça, mais effectivement, il y a cette distinction.
Je me suis retrouvé avec l'utilisation du mot fille, par exemple. Je me suis retrouvé à avoir ma fille qui me dit, mais tiens, elle, c'est une fille, mais elle fait ça, tu vois, par exemple, parce qu'elle a quand même des trucs.
Ok, donc ça, c'est un stéréotype de genre.
Voilà, tu vois.
Donc là, c'est vraiment, en fait, la plupart, en fait, de ce qui pose problème, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de genre que de sexe, ce sont des stéréotypes de genre, clairement.
Tout à fait.
Les inégalités, elles sont là-dedans et on essaie de les déconstruire. Et donc, toute la partie que tu as décrit, en fait, on ne parle pas, finalement, il n'est pas question de sexe. Là, on parle vraiment complètement du genre.
Tu vois, excuse-moi, je me permets de te couper parce que j'aime bien ta précision. Moi, j'ai l'impression que finalement, le genre, ce n'est pas tellement sujet, mais que c'est le stéréotype de genre, le sujet.
Ah bah, le genre ne devrait pas être un sujet pour qui que ce soit. Je veux dire, chacun est libre de s'autodéterminer dans le genre dans lequel il, elle, s'identifie, se ressent, etc. Donc, la question, c'est les stéréotypes de genre. Et voilà. Et du coup, ces questions-là, elles n'ont pas été prises au hasard. Hein. Ce sont vraiment des questions qui ont été...
Elles sont très bien traitées, en plus.
Et enfin, puis, j'ai envie de dire, pour les parents qui ont très peur de ce livre, de mémoire, c'est le chapitre 4, c'est l'estime de soi. Et le chapitre 5, où c'est de mémoire, c'est les premiers émois. Ce sont deux chapitres ultra roudoudous. Pour les personnes qui ont, on se dit, je vais pas être en mesure d'ouvrir le livre avec mon enfant, c'est trop compliqué. Les chapitres 4 et 5, ce sont des chapitres où les parents me disent, alors, moi j'ai fait du coup, j'ai pris la question comment faire pour avoir confiance en soi. Et j'ai dit, en fait, j'ai découvert un truc, c'est qu'on l'a fait ensemble avec mon enfant et du coup, moi j'ai eu envie de le refaire pour moi. Seul en tant que parent, voilà.
Je sais pas si t'as déjà écouté. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie parce que je sais pas si t'as déjà écouté mon épisode 13 avec André Stern, avec une phrase qui a beaucoup beaucoup tourné, qui tourne encore beaucoup sur les réseaux, où il y a cette fameuse phrase "Je t'aime parce que tu es comme tu es".
Ouais.
Et ça m'a beaucoup fait penser à ça, tu vois, justement de s'accepter. On est unique. Je vais citer un peu de mémoire ce que tu dis, qu'on est unique, qu'on a de la valeur quoi qu'il arrive.
Ouais.
Et ça, c'est très très important de passer ces messages-là aussitôt. J'ai une question compliquée.
Ah non,
si.
J'avais juste envie de faire une parenthèse. Moi, j'ai des pré-ados à la maison.
Donc
j'en ai quand même deux qui sont au collège 6e, 5e. Et franchement, c'est pas un âge simple. C'est un âge de transition, c'est un âge compliqué. Et c'est un âge où, on va pas parler de ça aujourd'hui forcément, mais t'as beau leur donner, essayer de remplir leur réservoir d'amour autant que faire se peut tous les jours, etc., Il y a beaucoup de doutes, de remises en question, de sensations de rejet parfois du groupe, etc. Et c'est vraiment... moi, je me rends compte à quel point, là, je relis mon ouvrage. Certaines personnes ne verront pas ta beauté intérieure, et tant pis pour elles. Voilà, n'essaie pas de changer pour attirer leur attention. La vie est trop courte pour essayer de plaire à tout le monde. Sois toi-même, c'est vraiment le plus important. Et ça, c'est vraiment des choses que je me dis... Faut que je relise cette question-là avec mes enfants. Voilà.
Puisqu'on est un petit peu dans cette parenthèse, je vais l'explorer un petit peu plus et je vais essayer de te demander un peu ton expérience de maman. Est-ce que tu penses qu'avec des pré-ados, justement, l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui se complexifie un petit peu avec les réseaux sociaux, ou en tout cas ce qu'on peut voir dessus, et notamment ce paraître qui a une importance capitale? Parce que, si tu veux, moi je suis totalement d'accord avec ce qui est écrit dans ton livre. Je te rejoins à 1000%. Mais si tu veux, quand je regarde aussi les images, les représentations, sachant qu'en plus, préadolescence, adolescence, c'est justement le moment où l'enfant va se détacher du regard parental, familial, pour s'intéresser au groupe social dans lequel il a envie de s'identifier, et peut potentiellement en changer.
Très bien.
Quand tu vois que les représentations, c'est beaucoup le paraître, okay. Comment on fait, quoi? T'as peut-être pas la réponse après.
Alors, moi je n'ai que ma propre expérience, donc je suis pas du tout qui suis-je pour... par contre, et là je vais peut-être étonner beaucoup de personnes, donc mes aînés qui sont en 6e et en 5e n'ont pas de téléphone portable, et c'est absolument pas à l'ordre du jour. Voilà. Je rappelle que les réseaux sociaux en France ne sont pas autorisés aux moins de 13 ans, et on n'a pas le droit de créer un compte seul, donc à partir de 13 ans on a le droit de créer un compte avec son parent, et à partir de 15 ans en toute autonomie, les gens me disent attends quand même, etc. Mais c'est parce que je suis sur les réseaux sociaux et parce que je connais aussi l'envers du décor et la violence et tout le reste, et aussi les chiffres, tout ça, en fait, je suis pas pressée, donc je sais qu'un jour mes enfants seront sur des réseaux sociaux.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En revanche, c'est important pour moi de laisser ça arriver le plus tard possible pour leur laisser le maximum le temps de s'épanouir sans cette validation du regard d'autrui.
Je rappelle que du coup, on a un épisode sur les écrans que vous pouvez consulter avec la docteure Annelise Ducanda. Il y a aussi une belle réflexion qui est faite avec Eric Greff dans l'épisode 81, qui lui aussi est enfant de pré-ado.
Il y a aussi un livre qui vient de paraître aussi, Les 10 idées reçues sur Internet de Sophie Nanteuil. Allez-y. Enfin, c'est vraiment, je pense, pour aider à la fois les parents et les enfants à appréhender, à trouver les bons mots pour prévenir, mettre en garde... sensibiliser, allez-y.
Super, merci pour la reco.
Je t'en prie.
Les parents qui nous écoutent sont toujours très friands. Alors, la question compliquée, du coup, je ne l'ai pas oublié.
Vas-y, non mais sinon... Vas-y.
Comment me positionner entre mon souhait d'une éducation sans préjugés et non genrée au possible,
ouais,
et la violence que mon fils, par exemple, va rencontrer s'il va à l'école en robe, par exemple, ou encore si les grands-parents se moquent? Je te dis ça parce que j'ai eu l'exemple récent dans mon groupe d'amis d'un petit garçon de 4 ans qui a une robe.
Ouais.
Tu vois, même pas une robe à foufrou, quoi, une robe simple, droite.
Ouais.
Il adore la porter.
D'accord.
Il adore la porter. Mais du coup, en fait, il y a au moins un papy qui s'est moqué. Et ce petit garçon, quand il m'en a parlé, il avait des étoiles dans les yeux, il adore sa robe.
Ouais.
Et déjà à 4 ans, il m'a dit... je sais que j'ai pas le droit de la porter à l'école parce que je suis un garçon. C'est une question qui revient souvent parce que qu'est-ce qui se passe? Parce qu'entre l'envie de laisser mon enfant porter sa robe et le fait qu'à l'école, il va potentiellement se faire pourrir et je veux aussi le protéger, tu vois.
Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique d'abord. Mm-hmm. Enfin, je pense que, moi, j'ai été aussi. Je suis confrontée dans ma propre famille avec notre propre dernier enfant à ce genre de sujet. Et d'abord, dans le livre, il y a effectivement, dans les fameux stéréotypes de genre, un garçon, ça porte pas de robe, machin. Alors, excusez-moi, sorry, not sorry. Du coup, il y a quand même toute une série d'illustrations où on voit très bien que pendant très longtemps, tout dépend de la culture, du temps. Les pharaons en Égypte, sous le règne de Louis XIV, les hommes portaient du maquillage, des perruques, des tuniques, qui ressemblaient à des jupes, des bijoux. Encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, les hommes portent des jupes ou des robes en Écosse, en Inde, Afrique, Moyen-Orient. Donc en fait, c'est vraiment un sujet qu'on fait comprendre à nos enfants d'abord que il n'y a rien qui est interdit et on peut parfaitement s'identifier au genre homme, garçon et porter quelques tenues que ce soit et du maquillage et des barrettes. Et les cheveux longs, tout ça, tout va bien. Donc en fait, la première chose déjà, c'est de donner à son enfant des arguments pour mettre fin à la discussion. Et en l'occurrence, nous, on a un enfant, notre troisième enfant qui est concerné et qui n'a strictement aucun problème à lui dire « Bon, alors d'abord, ta gueule, parce que tu n'y connais rien. Regarde. » Est-ce que tu sais ? Non. Tu sais pas ? Eh ben moi, je vais te dire. Non. Qui fait l'éducation de toutes ses classes, nickel. Et aussi, on a la chance d'avoir une école à côté de chez nous où les professionnels, les profs sont complètement à l'écoute, en avance et m'ont dit, on fera évidemment tout ce qui est nécessaire pour que l'école soit un espace safe pour votre enfant. Voilà, je sais que la relève, elle est assurée. Et pour le reste, mais c'est vrai que J'ai un enfant qui laisse rien passer. C'est-à-dire, en fait, il voit one smirk et je sais qu'il y aura ce qu'il faut pour se défendre. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle. Mais n'empêche que, et c'est un peu tout le propos de l'éducation, on dit knowledge is power. Donc, vraiment, le savoir, c'est le pouvoir. Donner à son enfant des armes, des clés pour répondre, etc. Cette espèce de, et puis, asseoir une forme, de confiance en soi, en fait, de certitude que. Enfin, tout va bien, en fait. Et aussi, leur dire, tu sais, en fait, potentiellement, tes camarades, ils sont pas ni bêtes, ni idiots, ni rien. Ils ont juste reçu un bagage éducatif qui est différent du tien. Donc, aussi, prends le temps de dire, c'est pas contre toi. Hein, c'est juste qu'il n'y a pas de bagage. Et qu'en fait, ce bagage, tu peux, toi, leur transmettre. Voilà, donc c'est notre enfant qui fait l'éducation de sa classe, et c'est OK. Voilà, je dis, juste ne sois pas direct dans le jugement de l'autre. Hein, on ne répond pas à un jugement par un jugement. On est là sur « Ok, tu me dis ça parce que toi, on t'a dit que les mecs, ça portait pas de jupe. Ok, c'est une connerie et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Mais c'est pas toi qui es con, c'est ce qu'on t'a dit qui est une connerie. Voilà, c'est la différence encore. Mais voilà, donc c'est aussi important. Donc moi, à la maison, on donne ça et puis on a le relais qui est pris par les profs et ça, je les remercie vraiment.
C'est génial que le relais soit pris par les profs. C'est pas partout le cas, donc c'est vraiment une chance.
Non, mais clairement.
Moi, je voudrais donner une autre source aussi qui existe justement pour tous ces trucs de est-ce que les hommes peuvent porter des robes, est-ce que tous les hommes ont un pénis aussi. Voilà, plein de questions comme ça. Il y a le blog mamanrodarde.com qui a fait plein de petites dépliants en fait avec tous ces sujets-là et plein d'exemples et qui sont super chouettes pour donner des arguments. C'est une très bonne ressource. Tu parlais tout à l'heure de la partie sur les premiers émois. Bon, moi, c'est une partie aussi que j'ai beaucoup aimée. C'est très roudoudou, en effet.
Je
me suis demandé si l'accompagnement des parents est suffisant pour proposer quand même à l'enfant d'autres schémas que l'hétéronormativité. Parce que ça, c'est... Alors, attention aussi, je précise, parce que c'est des remarques que j'ai tout le temps sur les réseaux sociaux.
À cause de quoi ?
Et je voudrais... Je vais le dire tout de suite, même si je pense que mon auditoire est quand même plus éveillé que ça, mais si jamais on vous pose la question, je vais ouvrir la parenthèse. C'est pas parce qu'on veut réfléchir sur l'hétéronormativité présente partout qu'on est en train de dire qu'on veut rendre des enfants homosexuels, bisexuels ou quoi, tout simplement parce qu'on ne peut pas. Ils sont ce qu'ils sont. On ne peut pas les induire.
Par contre, ce qui est clair, c'est que nous, on nous a imposé. On nous a imposé l'hétérosexualité obligatoire. C'est ce qu'on appelle la fameuse comp-het, donc la compulsory heterosexuality, donc l'hétérosexualité obligatoire, parce que les seuls modèles qu'on avait, c'était ceux-là. Et je trouve. Là-dessus, je ne vais absolument pas y aller par quatre chemins. Je suis ravie que nos enfants grandissent, en tout cas dans un monde où il y a des modèles qui sont différents. Je vais les citer parce que je trouve ça assez extraordinaire. Merci à Netflix, à toutes les boîtes de prod qui aujourd'hui prennent leur lait. Ce que je dis souvent, on est quelques personnes à tenir des blogs d'éducation sexuelle ou de santé sexuelle sur Instagram, etc. Ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, on va atteindre des petites communautés, même si elles se comptent en centaines de milliers de personnes. Mais d'ailleurs, de voir des master prod qui arrivent avec des séries comme Sense8, avec Sex Education, avec The L World, Orange is the New Black, avec Elite, avec tout ce que tu veux, en fait, tout d'un coup, tu te dis, on est en train de transmettre à cette génération la possibilité, finalement, eh ben, d'avoir, et à côté de ça, tout, voilà, les comédies aussi hétéro, tout ça, très bien. Mais au moins, il y a une représentation de tout le monde et pas juste de l'hétérosexualité qui fait te sentir, et je m'inclus en tant que personne queer, quand tu es notamment à cette fameuse phase de puberté où tu te dis, mais y a pas de place pour moi dans ce monde en fait. Enfin, je suis pas normale, c'est quoi le problème avec moi? Comment je vais faire pour être heureuse? Je vais où en fait? C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a cette possibilité, nos enfants en tout cas ont la possibilité d'avoir accès à une multitude de modèles, et c'est pas parce qu'on leur montre des modèles qui elles vont devenir ceci ou cela, c'est juste qu'au cas où ils s'identifient, et ben ils vont avoir enfin un modèle au moins où ils vont dire ah tout va bien, je suis pas un monstre, non, j'ai pas besoin de me foutre en l'air, tout va bien.
Et justement, tu vois, c'était le sens de ce que je voulais dire, c'était on peut pas, enfin, on ne rend pas des gens homosexuels,
non,
ou
bah,
bi ou quoi.
Je veux dire, si on rendait les gens hétéros en leur montrant du cinéma hétéro, ça saurait. je te le dis malheureusement. Enfin, malheureusement. En tant que personne queer, ça n'a pas fonctionné du tout de me montrer à longueur de temps tous les Disney, etc. Cela ne m'a pas rendu hétéro. Non, en fait, on ne rend pas des gens homo en leur montrant quoi que ce soit. On leur offre juste des modèles qui leur permettront de s'épanouir. Et encore une fois, enfin... Le plus important, je pense, en tant que parent, c'est vraiment, je le dis en tout cas pour moi, c'est de permettre à mes enfants de s'épanouir dans leur vie, de leur donner peut-être le maximum d'outils pour choisir en conscience. Mais il y a un truc qu'ils ne peuvent pas choisir. Il y a des choses qui, elles, sont. Une identité de genre, ça leur appartient. Une orientation sexuelle, ça leur appartient. Voilà. Et du coup, en fait, je vais aussi leur donner... tout maximum de ce que je peux pour aussi qu'elles, qui elles soient, qui se sentent à leur place, dans un espace safe, baigné d'amour, et voilà, à leur place.
Tout le chapitre 6,
ouais.
Tu le consacres au consentement.
Ah ouais.
Alors, tu as déjà largement abordé pourquoi est-ce que c'était important, ouais, tout à l'heure. Moi, du coup, j'ai une autre question compliquée à
allez,
te poser.
C'est parti, on y va.
Tu vois, moi, par exemple, ma fille, elle a très bien compris, c'est mon corps. Mm-hmm. C'est moi qui décide, machin. Ok, mais du coup, le consentement, selon moi, il a quand même une limite. Par exemple, l'hygiène, la santé,
ouais,
il faut laisser les vents.
Bah, c'est mentionné, ouais, clairement. C'est-à-dire, en fait, le consentement, il a quand même deux limites. Je vais le donner très clairement. Voilà, votre enfant est en train de marcher dans la rue. Elle boude, on va dire. Voilà, on parlait d'une fille, elle boude. Il est hors de question de lui prendre la main, en mode. Mais à ce moment-là, on est quasiment arrivé à la maison, il y a juste à traverser la rue, elle se met à traverser. Il y a une voiture qui arrive à 70 à l'heure, c'est très simple pour la sécurité de votre enfant. Vous allez choper votre enfant par la main et juste la ramener
manière... Tout ce que vous avez.
En fait, littéralement, tout en poussant un cri de détresse et d'effroi. Il y a deux sujets sur lesquels on ne transige pas, c'est la sécurité. Donc moi, j'ai strictement aucun problème à prendre qui que ce soit et à le choper à bras le corps et à l'amener. Si c'est pour sa sécurité, que ce soit mon enfant ou un autre enfant d'ailleurs. Et le deuxième sujet, c'est médical. C'est-à-dire, et pourtant, je sais, puisque j'ai un médecin de famille qui est extrêmement éveillé au consentement et je l'ai toujours vu demander, est-ce que tu es d'accord pour enlever ton t-shirt que je puisse t'examiner? Nickel. Est-ce que tu es d'accord que je touche ton ventre pour voir si tout va bien? Ok. Enfin, je veux dire, on est quand même sur également des professionnels de santé. Je pense à la nouvelle génération de médecins, de sages-femmes, qui heureusement se forment et est éveillé au sujet du consentement. Toutefois, si un jour il y a un vrai gros sujet qu'il s'agit en fait d'une problématique de santé importante, j'avoue que là ça va être potentiellement je dois te faire un message cardiaque, si on se pose pas, mais en tout cas la santé et la sécurité, c'est les deux sujets sur lesquels, selon moi, on peut passer outre le consentement. S'il y a besoin de s'en sortir, c'est une question de vie ou de mort, on y va, quoi.
Un des exemples que je donne dans mon propre livre, c'est le lavage de nez aussi, tu vois, par exemple. Parce qu'à un moment, attendre le consentement, quand tu sais que ça peut éviter d'empirer, ça me paraît important. J'en profite pour dire à l'auditoire que si vous voulez réagir, bien sûr, à notre échange, vous avez en description du podcast le lien pour SpeakPipe. Vous pouvez réagir par un audio, n'hésitez pas.
D'accord.
On pourra répondre à ça, ils peuvent interagir directement en audio. Et ça, voilà. C'est très chouette.
En tout cas, bon, bah, je vais le dire, pour l'instant, la question ne s'est pas posée. C'est-à-dire, pour l'instant, notre médecin, coucou si tu nous écoutes, a réussi à créer une alliance thérapeutique avec mes enfants qui font que, ouais, qui fait qu'il n'y a pas de sujet. C'est là, voilà, qu'il s'agisse de vaccins, qu'il s'agisse de soins, etc. Il n'y a jamais eu de sujet. Voilà.
Il y a la partie 7 sur le sexe et le plaisir.
Ouais.
Qui est très complète. Moi, je recommande la lecture de cette partie aussi, bien sûr, parce que il y a ça répond à tellement de questions dans lesquelles moi, auxquelles je suis pas encore confronté, mais dans lesquelles je me projette beaucoup.
Oui.
Tu vois.
Et c'est le cœur du réacteur, en fait.
Ouais.
En fait, concrètement, sur 8 chapitres, il y en a un seul où réellement on va parler de sexualité. Mmh. C'est pour ça aussi que je dis les enfants, mais ils sont trop jeunes, nanana. Alors bon, hein, d'abord, relisez les principes directeurs de l'UNESCO. L'âge auquel il est conseillé, recommandé d'aborder le sujet, c'est entre 5 et 12 ans. Et évidemment, on ne va pas apprendre à vos enfants à faire du sexe. Voilà, c'est moi juste, je pose le contexte. La question n'est pas là, en fait, quand on aborde le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle corps, amour, sexualité. En fait, pour les enfants de 5 à 12 ans, on va aborder tous les sujets connexes. Donc, on va effectivement, voilà, le vocabulaire du corps, on va apprendre à nommer son corps. On va parler d'intimité, évidemment. On va parler de puberté, voilà, qui va arriver un jour et qui quand même questionne les enfants quand... un jour, je vais... Oui. Et il y a une forme de peur et de curiosité, et de fascination, d'appréhension, tout ça. Donc, la puberté, le quatrième chapitre, c'est l'estime de soi. On en a parlé, c'est très roux-doudou. Les premiers émois, le consentement... On finit par les bébés, effectivement. Il y a un chapitre qui est un chapitre où on aborde des choses. Et je pense, j'avais très peur de moi d'aborder ce chapitre-là. Je me suis dit, comment je vais prendre ce truc-là, franchement, comment ne pas faire peur ni aux parents, ni aux enfants, et en même temps apporter des vraies réponses à toutes les questions que j'ai reçues, qui sont des questions réelles des enfants posées aux parents. En tout cas, sur lesquels j'ai reçu des centaines de questions de la communauté, des parents de ma communauté. Et en fait, écoute, je pense avoir fait quelque chose, finalement, j'espère, hein, fin de finalement très léger et très beau.
Je recommande. Je peux pas faire plus que dire lisez cette partie.
Ouais.
Et même pour nous adultes, tu vois, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je pense que ça, il y a des réponses dans le livre.
Il y a pas mal de réponses
auxquelles qu'on aurait aimé avoir étant petit, qui vont ouvrir des portes même maintenant, je pense.
j'allais dire comment ça j'ai été démasquée que en voulant, je prétends éduquer les enfants, mais j'éduque beaucoup les parents. Chemin faisant.
Et ça vous déporte, mais complètement, ouais, important, c'est important, je pense. Et c'est important ce travail-là, et merci de le faire. Les questions 105 à 107, elles abordent un sujet qui est le sujet du porno. Alors du coup, je voulais poser une question, même si il y a quand même une piste que tu as donnée par rapport aux réseaux sociaux et au téléphone. Mais aujourd'hui, en France, la moyenne d'âge d'exposition est de 9 ans.
Ah non, alors moi j'avais pas... Alors on n'a pas les mêmes chiffres, moi j'en parle dans mon truc, c'est 12 ans pour le premier porno en France, et... Ensuite, ça ne cesse de baisser, donc, mais quand même, comme je suis cette stade depuis des années, c'était 13 ans, c'est devenu 12 ans.
C'est pas un chiffre français.
Hein ?
C'est pas un chiffre français.
D'accord, alors moi je te parle de la France, bon, c'était 12 ans. Bon, ça reste extrêmement jeune et choquant. Donc effectivement, d'ailleurs, c'est là un peu la réponse, la deuxième réponse, on va dire, que je vais donner, outre qu'il y a des pédopsychiatres, il y a 200 pédopsychiatres de tous les pays qui ont travaillé sur des principes directeurs de l'UNESCO pour expliquer pourquoi 5 à 12 ans était l'âge où il fallait quand même débuter. Deuxième réponse, en fait, l'exposition moyenne, c'est l'âge médian du premier porno en France. C'est-à-dire 50% ont déjà regardé du porno avant l'âge de 12 ans.
Ouais,
je précise
ça.
Quand même, c'est un âge médian. Donc, c'est très simple. Ceux qui disent « Ah, on va attendre la puberté ». Très bien. Alors, bon, outre le fait que si on attend la puberté, toute l'omerta, tout le silence, toute la honte, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à détricoter une fois que votre enfant, il entre dans la puberté. Et puis, pour être plongé dans le sujet, vous allez voir que votre enfant, il peut être difficile à atteindre une fois qu'on entre dans l'adolescence. Et que quelque part, c'est quand même beaucoup, on a beaucoup plus facilement accès, je pense, à nos enfants avant. Premier sujet. Deuxième sujet. Ben, en fait, si vous ne le faites pas, ça veut dire que la première exposition de votre enfant à la sexualité, quelle que soit, en fait, cette approche, mais ça va être le porno. Alors du coup, vous avez le droit, en fait, de préférer que Pornhub, YouPorn, soit le premier contact de votre enfant avec la sexualité. Ou alors, incroyable, vous pouvez prendre le cheval, le taureau par les cornes et se dire « Ok, c'est très compliqué pour moi, mais je suis capable. Je vais travailler, je vais acheter des livres, je vais le bûcher, je vais m'apaiser et je vais en parler avec mon enfant » pour qu'en fait, je vais lui donner aussi, et c'est peut-être le plus important, cette capacité. Parce que le jour où elle sera confrontée au porno, parce que je suis pas débile, ni naïve, ça va arriver.
C'est sûr.
C'est sûr. Enfin, c'est la question, c'est quand. Donc je sais, mais on va lui donner le jour où elle est confrontée à ça, les moyens de prendre du recul, de comprendre à quoi correspondent ces images et pourquoi, vraiment toute la distance critique nécessaire et cette naissance d'esprit critique. Elle repose sur vous. Vous êtes capable de le faire et vous êtes capable de transmettre ça. Vous êtes capable d'avoir cette discussion avec vos enfants. Faites-vous confiance, vous les parents. Franchement, faites-le et vous allez voir parce que du coup, les images, ça va arriver et vous verrez votre enfant n'aura absolument pas du tout la même lecture de ces images si vous avez eu cette conversation avec lui avant ou pas.
Et comme tu le précises d'ailleurs dans le livre, dans la boîte à outils, ça permet aussi, bien avant la puberté ou la prépuberté, d'être identifié comme une figure de confiance sur un sujet.
Et complètement.
Pas forcément sachante. Mais juste de confiance.
Exactement.
Et qui vous en parler librement.
Ouais, franchement, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, vous avez sans doute des questions qui vont arriver, qui ne sont pas dans le livre, qui vont évidemment arriver le jour où vous serez allé chercher la petite à la crèche et qu'elle sera en train de hurler de faim tout en ayant fait caca dans sa couche et que vous aurez votre drive à aller récupérer chez Carouf. Et c'est évidemment à ce moment-là que votre enfant va se dire « Mais maman, toi et papa, vous faites aussi l'amour ?» Ok, donc super, merci. Merci de poser cette question. Enfin, évidemment, c'est ça la vraie vie, en fait. On n'est pas... à ce moment-là, c'est quoi la boîte à outils ? Merci beaucoup pour cette question. C'est une très bonne question. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on prenne la conversation un peu plus tard ? Tout va bien, je vais gérer, je vais sortir le livre de Charline, on va y arriver. Voilà. Donc, la vraie vie, c'est aussi des questions qui ne sont pas dans le livre. Mais par contre, accueillir, ne serait-ce que dire « c'est une très bonne question, merci de la poser » ou dire aussi « je ne sais pas comment je vais répondre à cette question, je vais chercher les mots pour t'y répondre et dès que je les ai trouvés, je te réponds. Tu es d'accord ? Ok, super, on fait ça. » Comment je vais faire ? C'est ça la réalité. Et on va y arriver, mais c'est vraiment faux. Voilà, le plus important, c'est effectivement cette espèce d'accueil positif, bienveillant, des questions de vos enfants pour s'identifier en disant, c'est-à-dire si la réponse, autre manière de répondre, c'est pas ton sujet, pourquoi tu me parles de ça à toi ? Si vous dites ça, votre enfant se dit, mince. Et si j'allais poser la question à Internet ? Papa, maman, faire l'amour. Voilà. Et en fait, c'est ça en fait, le sujet. C'est-à-dire, si à partir du moment où vous ne créez pas cet espace safe, votre enfant ira chercher la réponse ailleurs. Enfin, c'est ce que je dis, arrêtez de prendre votre enfant pour des débiles. Hein. Ce sont des enfants. Si l'enfant pose une question, elle mérite une réponse, une question de respect, il ira chercher la réponse ailleurs.
Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais je ne sais plus de qui, mais quelqu'un l'a dit dans mon podcast, c'est que si l'enfant pose une question, c'est qu'il est capable d'en entendre la réponse. Et je trouve que c'est une base très intéressante.
C'est une base très intéressante, mais c'est aussi ça que je dis, n'hésitez surtout pas à dire, mais pour toi, ça veut dire quoi, faire l'amour ?
Voilà, exactement.
En fait, retournez la question à votre enfant, parce que potentiellement...
C'est pas le même référentiel.
En fait, exactement, c'est-à-dire l'enfant, à travers la réponse, va vous donner un peu son niveau de maturité sur le sujet, c'est-à-dire en fait, ça sert à rien de faire une réponse level 10, si votre enfant, il attendait la réponse level 1. Inutile de partir dans le cours magistral de 3 heures la sexualité au cours des âges, jusqu'à... En fait, non, on s'en fout. C'est pas le sujet. Si votre enfant dit, je sais pas, faire l'amour, par exemple, vous faites des bisous sur la bouche. Ah, c'est ça, faire l'amour. Ouf, ok, donc ça, c'est le niveau de maturité de mon enfant. Très bien. Ok, c'est une très bonne question. Je te réponds tout à l'heure, une fois que tout le monde est douché, tout le monde a dîné, qu'on est posé dans ta chambre pour l'histoire du soir. Ok, ça roule. Ok. Et là, on va dire, l'intimité que j'ai entre papa et moi, c'est notre intimité de parents. Donc, je ne peux pas te répondre, mais par contre, oui, il nous arrive de faire des bisous sur la bouche parce qu'on s'aime. Voilà, ça te va comme question. Vous vous demandez à votre enfant, ça te va, ça suffit comme réponse ? L'enfant va dire oui. Enfin, généralement, alors moi, j'ai toujours eu des réponses complètement... Des fois, je me suis dit, oh là 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 là, comment je vais répondre à cette question ? Je me lance dans un truc. Ça suffit ? Non, ça suffit pas. Ok, on y va, level 2, level 3. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie, d'avoir traumatisé mon enfant, et à la fin, je fais... Et là, ça te va ? Oui, maman, qu'est-ce qu'on mange pour dîner ? En fait, juste n'ayez de crainte, effectivement, l'enfant pose la question s'il peut entendre la réponse. Moi, j'étais essayée de voir à quel point, pour moi, parent, j'avais vraiment... je suis à grosses larmes, notamment avant d'avoir écrit le livre sur les réponses que je pouvais faire. Comment vos graines, elles se sont rencontrées ? Ouais, super, vraiment génial, merci. Comment je fais ? Donc j'ai répondu à cette question qui, effectivement, au début du chapitre Les bébés, n'est-ce pas ? Et la première fois que j'ai répondu à cette question-là, J'étais en train de tuer à grosses gouttes en me disant ah, est-ce que je ne mets pas fin à toute leur insouciance, toute leur innocence, etc. Et donc j'ai dessiné à la mano le schéma que Juliette, que Stommy Buzzy a fait en bien mieux dans le livre. Et j'étais là en mode, alors voilà, comment ça se passe? Et je précise aussi que c'était ma fille, ma numéro 2, qui, après avoir lu, relu, re-relu le bisexuel, n'avait pas réponse à cette question. Parce que la réponse n'y est pas exactement. Mmh. Et du coup, en tout cas, dans l'ancienne version. Et du coup, et j'étais là en mode, ok, donc, et clairement pour cet enfant, pour mes enfants globalement, qui ont besoin d'aller au bout des choses et que ce soit bien clair pour pouvoir passer à autre chose. Tant que le puzzle n'était pas constitué, il était impossible de passer à autre chose. Et pour ma fille, c'était là. Elle était là. Non, regarde, maman. Ah, je sais, c'est à travers le nombril. Ah non, non, ça ne passe pas par le nombril. Non, non. Donc voilà, donc je me lance dans cette explication de rencontre de gamètes. Tout va bien. Et là, je me disais, bon, c'est fini. J'ai perdu ma fille. Perdu. Et là, elle fait oh, ah, c'est comme ça. Ah, mais oui. Ah, ben c'est beaucoup plus clair. Très bien. On mange des lasagnes ce soir. Ok, super. Je l'ai vraiment traumatisé, ça se voit tout de suite.
Et c'est marrant que tu évoques ça parce que tu vois, moi, il y a quelques jours, ma fille m'a demandé précisément sa question, c'est comment sont faits les bébés?
Ah oui.
Et du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Est-ce que tu veux savoir comment est-ce qu'un bébé, d'où ça vient, de quoi ça part? Oui, c'est exactement ça, d'accord. Du coup, je lui ai dit que c'est un spermatozoïde d'un ovule se rencontrer. Je t'avoue que j'étais bien content qu'elle ne m'ait pas demandé après comment ils se rencontraient,
ah oui.
Mais ça viendra plus tard. Mais je dis ça parce que c'est important vraiment ce que tu disais, du coup, de savoir avec quel référentiel l'enfant parle, ouais. quelle est vraiment ouais. sa question, avant de partir dans des projections
ah ouais, un c'est-à-dire peu C'est-à-dire, moi, la challenge, au début, je me suis dit, non, trop jeune, c'est impossible, je vais pas lui donner la réponse, 8 ans, c'est beaucoup trop jeune, c'est pas possible. Tout ça, et puis j'étais là, oui, spermatozoïde, ovule, tout ça. Mais comment ils se sont rencontrés, hein? Parce que du coup, le spermatozoïde, hein, il est pas là, il est pas dans le corps, alors il est où? Il passe par le nombril. Non. Mais s'il passe par le nombril, il passe par où? Allez, c'est parti.
Oui.
c'est le moment. Moi, j'ai vraiment à ce moment-là eu cette sensation de sauter en parachute. Hein. Enfin, je veux dire, sauter du plongeoir. Enfin, c'est le grand saut dans le vide. Et quand j'ai vu la réaction de ma fille, j'étais en mode.
Ah ouais.
Ok.
En fait, c'est ça.
En fait, finalement, c'était tellement easy. Bref.
Et les lasagnes étaient bonnes. J'ai une dernière question pour toi.
Ouais.
Si tu en avais le pouvoir, politique, social, tout ce que tu veux, si tu en avais le pouvoir,
ouais.
Quelle serait ta première mesure d'urgence sur le sujet de l'éducation à la santé sexuelle? La première.
Bon, tu me donnes 1 milliard, on est d'accord.
T'as budget limité.
J'ai
par
budget
contre,
limité.
Par contre, c'est ta première mesure.
Ah là 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 là, première mesure. Elle va être très rapide. Je crée une école de formation, en fait, pour envoyer sur le terrain très rapidement, donc dès l'année d'après, des armées d'éducatrices en santé sexuelle qui sont formées dans tous les établissements de France et de Navarre. Et ça deviendrait une matière obligatoire sur le collège et le lycée, tellement c'est important. C'est-à-dire vraiment, je pense qu'on sous-estime à quel point le niveau d'ignorance est abyssal et à quel point ça a des conséquences. C'est un sujet de santé publique. Vas-y.
Mais on va s'arrêter là parce que ça sera le sujet du bonus.
Ah, okidoc, c'est parti.
Merci beaucoup, Charlène, pour cet épisode.
Ça marche.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.